au cachet oriental. J'ai réussi totalement ces
questions. Moi, c'est Céline de Courvoisier au Cassandra. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de la semaine de parole aux auditeurs. Le sujet de ce lundi est consacré à l'Assemblée nationale depuis l'ouverture le 15 mars de la dernière session de cette première législature. Les députés nationaux peinent à retrouver le rythme normal des travaux. Le bureau n'arrive pas à tenir les plénières pour diverses raisons, notamment par faute de quorum, mais même dans certains cas, certains membres du bureau brillent aussi par leur absence. Selon le calendrier adopté en début de session, près de 700 primataires sont prévus. Des projets et propositions de loi essentielles sont en jachère, sans oublier les actions pour le contrôle du gouvernement. Comment réagissez-vous face à cette situation? Serge Goncho est notre invité, il est analyste politique, mais aussi président d'une association, membre de la société civile, le GEMIL. Kiro Lamenti, Titi Poutou, Pito Kouale réalise cette émission, j'étais spécial à la mise en onde. Marie-Chantal Lumba à la présentation, soyez tous les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Notre invité dans notre studio, bonjour Monsieur Serge Ngoutou.
Bonjour Marie-Chantal.
Le 28 mars dernier, c'était la quatrième fois, le quatrième report consécutif en l'espace de deux semaines de la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. C'est après l'ouverture de la toute dernière session ordinaire. En principe, ça doit être la dernière de cette législature. Il faut dire que la plupart des raisons souvent évoquée, c'est le manque de quorum, donc les députés n'arrivent pas à atteindre ce quorum pour pouvoir siéger. Mais quand même, c'est un peu atypique parce que souvent à l'Assemblée nationale, selon les observateurs, il est vrai que ce n'est pas vraiment tous les députés qui sont très actifs. Il y a certains qui sont, on peut les appeler des figurants, même dans des commissions, on le constate, mais jusqu'à ne pas tenir des plénières quatre fois, c'est quand même spécial, c'est un peu atypique comme je l'ai dit. Quelle est votre analyse en tant qu'analyste politique au regard bien sûr de cette situation?
Cette situation de l'Assemblée buissonnière traduit un malaise, à la fois un malaise et peut-être une stratégie délibérée. Nous devons nous rappeler qu'il y a quelques mois, lors de la dernière session, nous avons vu les mêmes parlementaires faire assaut de ponctualité, de présence, une mobilisation extraordinaire, au point qu'ils ont réussi le tour de force de modifier la Constitution en une semaine. Il est incompréhensible que les mêmes personnes, trois mois après, brillent par leur absence. Donc il est permis de supposer qu'il s'agit d'une stratégie délibérée.
Et quelles sont, à votre avis, les conséquences du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de plénières, mais il leur reste quand même deux mois et demi?
Il est clair, nous pouvons comprendre que les députés de la majorité, surtout, nous pouvons croire que ces députés de la majorité veulent faire passer le temps. Soit parce qu'ils ne veulent pas que les élections se tiennent dans les délais, soit parce qu'ils ont un autre agenda que nous ne connaissons pas. Mais nous savons qu'ils sont très régulièrement en réunion, je crois bien à Kingakati. Là, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de crise de quorum. Donc, ils ont leur agenda, et c'est ça que nous devons chercher à comprendre.
Mm-hmm. Donc, pas de plénière, plusieurs matières, notamment, il y a certaines révisions, on pense qu'on devrait revoir certaines dispositions de la loi électorale, la réforme de la justice, de l'armée, de la police. Sans oublier d'autres matières concernant la caisse de péréquation, sur le régime spécial des parlementaires. Donc il y a autant de matières qui devront être traitées au cours de cette session. Nous allons écouter les auditeurs, ce que eux ils pensent du fait qu'il n'y ait pas de Peña durant ces deux semaines. Nous avons déjà Alidor qui est au bout du fil à Kananga et Ernest plutôt de Matadi et Edemaga de Butembo. Je rappelle nos contacts, c'est le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Alidor, bonjour.
Bonjour, maintenant, Alidor à Kananga.
Oui, Alidor, est-ce que c'est possible que vous puissiez un peu vous déplacer? Parce que la qualité de communication n'est pas très bonne. Le temps que vous puissiez être à un endroit assez où la qualité sera meilleure, nous prenons d'abord Esther. Aldo, nous allons revenir à vous. Ernest, plutôt, bonjour.
Bonjour, maman.
Vous êtes à Matadi. Dites-nous, vous avez suivi par les médias, bien sûr. Il y a plusieurs plénières, quatre fois que la plénière a été reportée au niveau de l'Assemblée nationale. Et comment réagissez-vous?
Merci bien. Je pense que, si je ne me trompe pas, l'Assemblée nationale a besoin, doit traiter, je crois, 78 matières pour cette session. Mmh. Mais curieusement, nous apprenons les absences répétées, régulières, et on ne comprend plus rien. Mais moi, je pense que les députés, s'il y a majorité réellement, ils peuvent, que cette majorité peut bien se présenter chaque jour et travailler. Parce que nous avons vu la majorité se mobiliser, être ensemble, vraiment très unis, pour défendre une position, un ministre en difficulté, ou une loi qu'il fallait vraiment faire passer par la majorité. Ils étaient là, même lorsqu'on a voté le départ de Vital Kamerhe. C'était une majorité écrasante. Mais si on négligeait l'opposition, je pense que la majorité pouvait bien travailler et voter des lois prévues pour cette session. Mmh. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Donc, à votre avis,
qu'est-ce que moi je peux dire? Mmh. Au-delà de ceci, ils font passer les tâches sciemment et intelligemment pour que, en dernier minute, ils auront simplement se concentrer sur la loi électorale qu'ils vont travailler dans une sous-pression selon leurs intérêts et tout balancer pour leurs profits, ou soit pour les candidats qu'ils pensent avoir fait passer comme candidat à tous les niveaux qu'ils pensent. Donc je pense qu'ils sont rivés et ils sont très mal intentionnés pour cette même session.
Donc vous, Ernest, pour vous, vous pensez que c'est tout simplement un calcul, une stratégie politique, le fait de ne pas pouvoir permettre que le quorum soit atteint pour siéger?
Oui, je crois que c'est une stratégie, pas politique, mais une stratégie d'intelligence, de mauvaise intelligence, mal intentionnée même.
Et là, vous les exhortez à pouvoir participer à cette plénière. Merci Ernest de Matadi. Nous revenons à Alidor, j'espère que la qualité s'est améliorée. Bonjour Alidor. En tout cas, Alidor, jusque-là, ça n'a pas vraiment changé. La réalisation, on va pouvoir vous recontacter pour que vous puissiez donner votre avis sur la question. Nous allons maintenant à Butembo. Bonjour, Edemaga.
Oui, bonjour, la journaliste, bonjour à l'invité.
Vous avez suivi l'avis d'Ernest.
Oui.
Quel est votre avis?
En tout cas, vraiment, c'est très, très regrettable pour ces députés. À la veille, ces gens ne veulent pas que l'élection passe et qu'on te les prévise. C'est une stratégie. Ils ont toute la maturité politique. Et moi, je pense que pour ces gens, il aurait fallu que le président de l'Assemblée prenne une décision pour ces gens. Ça, c'est une politique vraiment très grave. Nous qui sommes la population, nous sommes en train de nous attendre que l'élection va passer bien, quoi qu'il concerne, mais qu'on s'est vraiment vu la gravité de cette absence. Vraiment, nous, je suis de l'autre côté de la population, nous sommes en train de nous désespoir vraiment davantage concernant cette absence grave.
À votre avis, il faudrait que le bureau puisse prendre des mesures pour pouvoir, on peut appliquer, parce qu'effectivement, il existe dans le règlement intérieur, il y a quand même des articles qui stipulent en cas d'absentéisme, il y a des sanctions qui peuvent être prises, mais de toutes les façons, à ce niveau-là, jusqu'à présent, cela n'a pas encore été fait. Merci beaucoup, Edemaga, de Butembo. Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, j'ai quelque chose. Vraiment, c'est une chasse de colère à la dernière minute.
Là, on a aussi des problèmes avec notre auditeur de Butembo. Nous espérons peut-être que les deux de la technique seront avec nous pour que la qualité puisse s'améliorer, parce que sinon, sans auditeurs, ce sera difficile pour nous de pouvoir tenir, de pouvoir continuer avec l'émission. Une autre invitée dans le studio, nous avons Bravo Belété, qui nous écrit à partir de l'Équateur. Il nous écrit ceci: maintenant la population a compris qu'ils n'ont pas envoyé les porte-paroles du peuple au palais du peuple, qu'ils se sentent, ils pensent que les députés nationaux se sentent au-dessus de la loi, et ils pensent plutôt à leur intérêt personnel au lieu de l'intérêt du peuple. Pour lui, c'est jour J, moins quelques temps, au rendez-vous d'ici fin 2011, avec des t-shirts et casquettes équivalent à 5 ans valables, à 4 500 $ ou 6 000 $. Donc pour lui, il estime que les élections pourraient sanctionner les députés ou les représentants qui n'arrivent pas, selon lui, ne se retrouvent pas à travers ces représentants-là. C'est ce que nous écrit Bravo Belété de Guémena. Nous poursuivons cette émission, nous rappelons nos contacts, c'est le 081-890-6315, 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons dans ce studio avec M. Goncho. Vous avez suivi cette première série d'auditeurs, ce qu'ils pensent, par exemple Ernest qui exhorte les députés à pouvoir participer, il a même épousé votre avis en disant que ce sont tout simplement des stratégies politiques pour qu'on puisse voter en dernière minute certains amendements qui soient au profit de la majorité.
Oui, c'est manifeste, vous constaterez, Marie-Chantal, que tous les trois intervenants ont parlé dans le même sens. Ils disent que les députés montrent qu'ils ne sont pas les représentants du peuple, parce qu'ils veulent faire juste ce qu'ils veulent. Ernest de Matadi dit qu'ils peuvent travailler s'ils le veulent, et il demande au président de l'Assemblée de prendre des mesures. Mmh. Justement, on peut poser la question, nous espérons qu'il y a quelqu'un du Parlement ou le président du monde qui nous dira pour quelles raisons lui qui est le chantre de la tolérance zéro ne la pratique pas dans sa propre maison, qui est le Parlement. C'est une question intéressante pour nous permettre de savoir s'il est en phase avec son discours ou s'il adapte son discours qui veut juste jeter de la farine aux yeux des gens. Vous constaterez que finalement, ces députés, pendant tout leur mandat, ils ont montré qu'ils sont très assidus pour ce qui les intéresse eux et ils jouent à l'école buissonnière pour tout ce qui concerne le peuple. Je pourrais rappeler, si vous voulez, que ces députés ont été très zélés quand il fallait discuter de leur salaire ou leur rémunération. Ils ont été très zélés quand il fallait modifier la constitution selon leur agenda en un temps record. Ils ont été très zélés pour défendre leurs amis qui étaient interpellés d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et maintenant là, ce qu'ils font, en fait, ils sont zélés aujourd'hui, il me semble, dans le fait de ne pas venir au Parlement. Ils le font donc en intelligence, avec un agenda bien...
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi lié peut-être à cette période préélectorale, parce que pour certains députés qui sont peut-être encore en vacances parlementaires, ils préfèrent se lancer dans une campagne électorale un peu, si on peut dire...
Il n'y a aucun député qui fait campagne maintenant. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, ils sont très mal à l'aise dans leur base. Beaucoup avaient reçu des menaces, que je sache, à partir de la modification de la Constitution qui n'a pas tenu compte des questions, des préoccupations du peuple. Non, ils ne sont pas en campagne. Ils sont bel et bien ici à Kinshasa. La plupart sont ici à Kinshasa. Donc, il faut plutôt chercher la raison du côté de la stratégie commune qui est orchestrée à partir de leur camp.
C'est une question de savoir ce qui se passe réellement. C'est aussi des interrogations de nos auditeurs. Nous allons écouter Innocent qui est à Riwara. Il est déjà au bout du fil aussi. Nous allons lire le message de Angoa John tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Innocent.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fati et bonjour à tous les journalistes de la radio Fati.
Oui, dites-nous, que pensez-vous du fait que 4 fois une plénière soit reportée au niveau de l'Assemblée nationale?
Bon, ce n'est que la preuve que ces élus se battent pour leur cause et non pour la cause du peuple. Ils sont déjà mandatés pour défendre les intérêts du peuple et une fois que j'ai démontré. Juste à la veille de l'élection, ils ne sont pas là pour se battre pour le peuple, ils se battent pour leurs intérêts. D'ailleurs, nous avons pour preuve, certains élus qui sont là, qui sont là, mais ils ne veulent plus aller à la plénière, pendant que d'autres sont à faire avec nous à la base. Nous ne comprenons pas ce qu'ils veulent, à quel jeu ils veulent jouer. Il y a des problèmes estimés qui concernent la République, pour lesquels les élus pouvaient se battre, sauf que la grève des enseignants qui s'annonce. Au lieu de résoudre des problèmes comme celui-là, on cherche à plutôt se réserver. On ne voit même pas leurs traces à la base, on ne comprend pas à quel jeu ils veulent exactement jouer. Nous avons tout de suite compris qu'ils sont là pour l'intérêt de la majorité. Lorsqu'il s'agit de défendre un ministre contre qui on a voté une motion, ils sont juste, ils défendent massivement pour annuler la motion. Lorsqu'il s'agit de défendre la constitution de la République, ils se battent, ils ont majoritairement, nous ne comprenons finalement pas. Le peuple les attend autour du mois de novembre. Nous allons les sanctionner. Nous savons que si le peuple est vraiment en a marre avec ce qui se fait de la RDC.
Merci beaucoup, Innocent, pour votre intervention. Vous aussi, vous estimez que les prochaines élections, vous allez pouvoir vous prononcer et voir dans quelle mesure sanctionner ceux qui, selon vous, ne vous ont pas suffisamment représenté. Bonjour, José.
Oui.
Vous êtes à Kindu, nous vous écoutons.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Quant à moi, je ne suis pas surpris que cet état des choses qui se passe à l'Assemblée parce que on s'attendait à ça. Qu'est-ce que vous remarquez, tous nos députés là qui se disent nos représentants, ils sont là comme représentants bien sûr, mais ils ne font rien. Et comme nous sommes à la fin du mandat, ils commencent à se précipiter pour organiser encore de faire autre chose. Pendant que ceux qui sont tranquilles, vous ne pourrez pas aller par-ci par-là. Ceux qui ne sont pas tranquilles, ceux qui n'ont pas bien travaillé, c'est eux qui rentrent toujours et qui s'absente même jusqu'à ce que vous constatez qu'il n'y a même pas de forum qui sont atteints. Mais qu'est-ce que je voulais dire à tous nos auditeurs ou à tout le peuple congolais? Cela doit nous interpeller une chose, nous devons sanctionner tous les soi-disant représentants-là, soit positivement, soit négativement. Vous trouverez les absents sont les personnes qui ne se sont pas préparées. Ils croyaient que le 5 ans est une éternité pour eux. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'ils sont en train de se hâter pour gagner les prochaines élections, au lieu d'abord de faire ce qui les a poussés à être là.
Merci, José, pour votre intervention, votre avis. Vous appelez à partir de Kindu, dans la province du Maniema. Nous avons un message de Angova John. Il nous écrit ceci. C'est une déception totale. Si ces personnes qui ont été élues se comportent de cette façon-là, étant donné que les matières à débattre sont d'une importance capitale pour la nation, je pense que cette fois-ci, la population doit être vigilante pour élire les gens compétents pour la défendre, car nous sommes vraiment déçus. Bonjour, Luc.
Bonjour, Madame Chantal.
Oui, de Guémena, quel est votre avis?
Madame, je reste confus dans ce sujet politique concernant nos représentants au niveau du Parlement congolais. Madame, il faut savoir que nous avons l'obligation de dire non et de dire oui. Et nous, qui sommes ce qu'on appelle le souverain primaire, la population. Je me suis étonné. Quand j'entends que l'absence au niveau des parlements, c'est dit au niveau de l'énergie, de l'électricité, ça c'est quel mensonge, hein? Madame, le peuple a souffert depuis 5 ans, il n'y a rien. moi je vais vous informer. Moi je suis à Guinée. Je n'ai vu aucun député venir rassembler les gens, retransmettre le message du Parlement, si ce n'est que M. Boutan, permettez-moi de citer les noms. Mais c'est tout le Parlement qui vient au niveau des bases pour restituer les choses. Mais il n'y a personne qui vient.
Oui, alors, Luc, en vous écoutant, vous êtes aussi déçu comme la plupart des auditeurs qui sont déjà intervenus.
Mais moi, je suis déçu, je reste confus. Mais si aujourd'hui, j'avais suivi une omission, dialogue intercongolais, c'est un député de majorité majorité au pouvoir qui disait que les députés sont dans des commissions. Est-ce que ce moment où les gens peuvent se réunir encore pour des commissions? Non.
Oui,
c'est pas le moment.
C'est la période de session.
Il faut que les députés se représentent au niveau du Parlement pour faire trancher la vérité sur les 76 points à l'ordre du jour.
Oui,
c'est un retard énorme pour les Congolais.
S'il vous plaît, Luc.
Je suis déçu de l'avoir sanctionné cette fois-ci. C'est vraiment une décision finale.
S'il vous plaît, Luc, mais il faudrait quand même savoir que ce qui se passe en plénière vient des commissions. Donc, s'il n'y a pas de travail en commission, il serait difficile de pouvoir débattre d'une question en plénière parce que la plénière, non seulement accepte, reçoit une proposition de loi ou un projet de loi, et cette proposition de loi ou projet de loi passe en commission. Et le plus grand travail se passe d'abord en commission avant que cela ne puisse être discuté en plénière. Mais comme nous l'avons pu constater, 4 fois une plénière reportée, c'est quand même quelque chose difficile, une pilule un peu difficile à avaler. Et d'ailleurs, Luc, nous avons en ligne Maître Jean Bouillou, il est député national. Bonjour, monsieur le député.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi une partie de nos auditeurs qui reviennent sur le fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que 4 fois une plénière peut être reportée, et la raison, c'est le quorum qui n'est pas atteint. Vous êtes député national, vous êtes aussi de la majorité parlementaire. Dites-nous un peu, pourquoi les députés n'arrivent pas à se présenter lorsqu'une plénière est prévue?
Oui, madame, je suis moi-même désolé parce que plusieurs fois je me suis trouvé seul avec 2 ou 3 amis à l'Assemblée nationale. Je remarque que la plupart des amis qu'on les appelle, ils sont encore dans leur chef électoral. Et j'estime que ce n'est pas juste que la République nous paye 4 000 $ par mois pour faire des lois. Et les gens empochent cet argent, et ils vont maintenant se récupérer ou chercher à se rattraper dans leurs chefs électoraux. Ce n'est pas acceptable. La République ne peut pas nous payer pour ne pas travailler ou payer ceux qui ne travaillent pas. Et j'ai demandé au président du Parlement qu'à la reprise, on doit modifier le règlement d'ordre intérieur. Il faudrait que nous ayons une sanction immédiate. Tu n'es pas venu aux séances ni de la commission, ni de la plénière, et bien tu ne touches pas cet argent-là. Sinon, c'est une escroquerie contre le peuple, une escroquerie contre l'État, et ce n'est pas acceptable. Pas du tout.
Et vous êtes de la majorité, c'est vrai que si les députés de la majorité ne sont pas présents, même s'il y a des députés de l'opposition, parce que tout fait quand même nombre, et à part le fait qu'au niveau du bureau, vous souhaitez qu'il puisse y avoir plus de sanctions assez contraignantes, mais entre vous, au niveau des groupes parlementaires, qu'est-ce qui peut être fait?
Eh bien, il y a dans ce lot d'absents des gens qui sont à la fois de la majorité et de l'opposition. Il est vrai que si tous ceux de la majorité étaient là, ils auraient pu siéger sans ceux de l'opposition. Mais il ne faut pas voir les choses sous cet angle-là. Il faut voir les choses en termes d'institution. Nous sommes une institution et nous devons en tant que telle fonctionner selon les normes de la loi et les normes du règlement intérieur. Alors, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, l'interpellation est la même. Nous sommes payés par l'argent des contribuables en vue de décider pour l'avenir du pays. Nous ne pouvons pas prendre l'argent et le rester dehors de l'Assemblée. Il faut une sanction immédiate dans le monde de l'intérieur à l'encontre de ceux qui ont ce comportement-là.
Il y a même certains auditeurs qui pensent que ce serait une stratégie politique pour pouvoir, en fin de compte, arriver à adopter certaines lois dans la précipitation.
Bon, pas du tout. Hein. De toute façon, la majorité a le quorum nécessaire d'adopter les lois. Hein, on n'a pas besoin de se précipiter pour ça. C'est pour ça que même les absents de la majorité ont tort. Ils ont tort parce qu'il faut que nous ayons le temps de prendre des lois en connaissance de cause et que le peuple n'ait pas l'impression que nous sommes en train de les prendre à la sauvette pour cacher certains intérêts alors qu'il n'y a rien à cacher. Donc ils ont tort de s'absenter, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et nous ne sommes pas d'accord avec tous ceux qui refusent qu'on change le règlement de l'intérieur. On doit le changer et on doit aller jusqu'à frapper financièrement ces gens-là qui prennent l'argent de l'État sans travailler.
Oui, et une toute dernière question, il paraîtrait que c'est une question d'indemnité, que les députés ne se présentent pas parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont recevoir leur indemnité de sortie.
Bon, je ne crois pas parce que les députés eux-mêmes sont en retard de paiement comme la plupart des fonctionnaires. Je veux dire que depuis le 15 janvier qu'ils ont été payés pour aller en congé, ils n'ont plus été payés après. Bon, mais si les enseignants enseignent, si les fonctionnaires travaillent sans être payés avec du retard, mais ça ne justifie pas que les députés ne travaillent pas parce qu'il y a retard de paiement. Mais les indemnités en question avaient été compensées en partie contre les véhicules. C'était un choix délibéré à chaque député a opéré. Et les députés qui n'ont pas voulu prendre des véhicules ont droit à leur indemnité de sortie. Donc je crois que c'est plutôt, à mon avis, la recherche de se positionner dans les fiefs électoraux pour notamment ceux qui n'ont jamais fait l'effort de s'y rendre. Ils voient que ce moment est le dernier, bientôt ils doivent rentrer devant la population, ils veulent faire quelques actions de charme, ils veulent faire une présence comme ça attrayante, mais moi je dis au peuple que ces gens-là sont mauvais, il ne faut pas les revoter. Et d'ailleurs, les statistiques du Parlement ont montré que 75% de députés en moyenne ne sont pas revotés. Donc j'encourage moi la population à ne pas voter les gens qui ne se présentent pas en séance, qui les trahissent.
Merci beaucoup, Maître Jean Bouilloux. Je rappelle que vous êtes député national et vous faites partie de la majorité parlementaire. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que vous souhaitez qu'on puisse même modifier le règlement intérieur pour qu'il y ait plus de sanctions et une sanction immédiate pour ces députés qui s'absentent volontairement et sans raison à ces séances. Bonjour, Eric.
Merci, madame.
Mais Eric, vous êtes à Lubumbashi, et que pensez-vous? Vous avez suivi le député national Jean Bouilloux, vous avez suivi même d'autres auditeurs. Quelle est votre réaction?
Oui, madame, permettez-moi de réagir d'abord par rapport aux déclarations des députés. Mm-hmm. Il vient de nous faire un discours du corbeau et les renards. Quand il nous demande à la population de ne voter pas ces gens-là qui ne se présentent pas au Parlement. Lui qui s'est présenté au Parlement, qu'est-ce qu'il a fait en faveur de la population? Ce sont des discours que le corbeau est en train de renard pour profiter de notre fromage. Moi, pendant que je vous parle, j'ai ma carte de lecture entre mes mains. Mais comme vous voyez parmi les gens que nous avons votés ici au Katanga, et la majorité n'a pas fait quelque chose en faveur de la population. Maintenant qu'ils nous mobilisent pour dire ne votez pas ces gens-là qui se présentent. Ces gens s'absentent peut-être pour des raisons évidentes. Par exemple, ceux de l'opposition, sachant que même si nous nous présentons, la majorité ne tient pas compte des intérêts de la population. La majorité ne tient compte que de leur stratégie politique, nous allons sanctionner durement. Moi, je pense, je souhaiterais que ceux de l'opposition, parce que ça ne vaut même pas la peine de se présenter aux plénières, et la majorité continue avec ses plénières, qu'ils votent les lois, parce que la majorité n'a jamais, jamais, alors en aucun jour, sauvé la population.
C'est votre avis, Eric, mais n'oublions pas que tous ces nombres, comme l'a même expliqué, et vous aussi dans votre langage, nous sentons que vous êtes vraiment déçus, et vous prenez en fait une sanction au cours des élections prochaines. Merci pour votre intervention, Eric de Lubumbashi. Bonjour, Séraphin.
Bonjour, madame.
Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez suivi vos prédécesseurs. Votre avis?
D'abord, je voudrais saluer le courage de l'honorable Mbouyou. Contrairement à Eric, je pense que celui-là, ce monsieur-là, malgré qu'il soit député, mais c'est un monsieur qui est plus ou moins honnête par rapport déjà à ses propos. Donc, je le salue pour ce courage-là. Lui, vraiment, il vient de résumer tout ce que la population peut attendre de cette institution. Donc moi, tout ce que je peux suggérer dans un premier temps, dans la même logique que le député Mbouy, qu'on puisse d'abord revoir les émoluments de ces députés. Imaginez-vous que pour l'instant, les enseignants ne sont pas payés, mais ils ont reçu 4 000 $. C'est quand même énorme. Si on peut réduire ce montant même jusqu'à 300 $ pour un député, pour moi, ce sera quelque chose de bon. Ils ont un train de vie qui ne reflète pas notre pays. En réalité, ils ont des vies qui coûtaient énormément cher. Donc aujourd'hui, ils sont plus que même ceux qui travaillent dans les écuries, ces députés. Regardez les films de cette législature du début jusqu'au maintenant. Vous verrez que quand il y a eu enjeu dans le sens de leurs intérêts, ils ont toujours été tous dans la salle. Mais quand il s'agit de voter des lois, ils n'ont jamais été là. Vous-même, au début de cette émission, vous avez dit qu'il y a des gens qui sont comme des figurants, ce qui n'est pas faux, en fait, c'est vrai. Donc, moi, ce que je vais demander à votre invité qui est là, qui a déjà une secure, c'est de mobiliser la population dans ce sens-là. Donc, évitez que nous ayons dans le prochain législature des gens qui ne savent même pas parler, parce qu'il y en a eu dans cette législature des gens qui n'ont jamais parlé. Pour le moment, vous cherchez là où ils sont. Moi, je peux vous dire là où ils sont. Ils sont dans des imprimeries en train de battre déjà des pièces. J'en ai vu plusieurs là-bas. Ils sont en train de battre des pièces. Donc, que cette population comprenne ensemble avec notre invité par rapport à sa structure, qu'on mette vraiment des bâtons dans le roue pour que tout ce qu'on a vu dessiner, qu'ils ne reviennent plus. Et tout ce qu'ils ont gagné déjà, c'est déjà énorme. Donc, ils n'ont qu'à aller se reposer dans leur village respectif et nous laisser tranquillement.
Merci, cher Rastin. Je rappelle que vous êtes ici à Kinshasa. Pour vous, vous pensez qu'il faudrait même revoir les émoluments, hein, revoir à la baisse, même 300 $ par mois. Vous pensez qu'ils ont un train de vie assez élevé et que pour la plupart, ils sont en train de voir dans quelle mesure ils vont battre campagne. Ils sont déjà pas campagne précoce. Il y a Tekoma Antoine qui nous a écrit de Ouacha. Il écrit ceci: les députés doivent faire preuve de maturité politique par leur savoir-faire et essayer de tendre la main à la base. Et nous avons, Pascal, nous avons demandé de pouvoir patienter, ainsi que un autre auditeur qui est au bout du fil, ce sera Monsieur Thomas Louaka, il est aussi député national. Nous allons le prendre tout juste après une petite analyse de notre invité. Je rappelle que c'est Monsieur Serge Mbosso, il est analyste politique, mais aussi président d'une association, membre de la société civile, le GEMIL.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Monsieur Mosso, nous revenons à vous. Vous avez fini cette deuxième série d'auditeurs. Ça a été un peu plus courté. Vraiment, ils sont revenus encore sur presque les mêmes préoccupations. Ils ne se sont pas représentés. L'élection 2011 sera une élection sanction. Il y a aussi des propositions, revoir les émoluments, revoir le règlement intérieur. Comment est-ce que vous réagissez?
Bien, d'abord, j'encouragerais ceux qui sont dans le métier de penser quand même à publier de temps en temps des sondages faits d'une manière plus ou moins professionnelle. Avec l'échantillon que nous venons de recevoir, je crois que c'est 100% des gens qui sont contre la démarche des députés.
En l'absence des députés, nous avons même un député qui décrit
même un député. Donc c'est vraiment un reflet de ce que pense la population. Je salue au passage M. Jean Bouillou, que je connais un tout petit peu en tant qu'homme. En tant qu'homme, c'est un monsieur courtois, c'est un monsieur correct, pour le peu que je connais de lui, qui respecte les autres. Et là, on sent vraiment qu'il a du mal à défendre ce qui est devenu aujourd'hui l'indéfendable. Bien qu'il est très ancré dans son camp politique, dans l'AMP, mais là, il est devant l'indéfendable. Alors, il nous dit quoi? Qu'est-ce que Jean Bouy nous dit? Il nous dit qu'il faut sanctionner les individus. Et si nous voulons être responsables, les individus portent leur camp politique. Donc, en d'autres termes, nous devons rappeler à Jean Bouy demain quand il sera en campagne qu'il est d'accord avec nous que nous puissions sanctionner la majorité actuelle. Je crois que c'est quelque chose d'acquis. Mais il est une chose, il ne nous a pas donné de solution. Il a fait le constat de tout le monde. Or, lui, en tant qu'acteur politique de premier rang, il doit nous dire ce que nous devons faire. Il doit être prévoyant, il doit être responsable. Vers quoi allons-nous?
Il a dit, il a proposé des sanctions, c'est ce vous.
Non, ça, ce sont des, juste des, c'est le minimum qu'il pouvait dire. Il fait du service minimum. Mais la vraie question qui est là, c'est celle-ci. Nous allons vers les élections, en principe. Mais les députés font tout pour qu'on n'y aille pas. La loi électorale n'est pas là. On ne va pas la sortir en dernière semaine et puis dire aux gens d'aller aux élections. Donc, il est clair que nous avons de moins en moins d'espoir d'organiser ces élections. La question maintenant à laquelle nous devons tous répondre, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'ici là? Il faut plutôt maintenant s'investir dans la gestion de la crise qui s'annonce. Voilà
vous
ce que
pensez,
je peux dire à ce
moment-là. Vous pensez que les deux mois et demi qui restent, on va encore pouvoir assister à des reports continuels et des plénières?
Oui, nous allons y assister. Mais oui, souvenez-vous que nous avons fait combien de mois pour avoir la CENI? Et vous croyez que c'était pourquoi? C'était par hasard.
Pour
non, ce n'était pas par hasard pour avoir le bureau de la CENI. Ce n'était pas par hasard. Et quand, de guerre là, s'ils ont fini par nous libérer la CENI, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils bloquent. Ils bloquent volontairement la loi électorale. Donc, c'est évident que le pouvoir ne veut pas des élections. Alors, qu'est-ce qu'il escompte avec ça? Est-ce qu'il veut s'octroyer tout seul une prolongation? Est-ce qu'il veut une crise? Nous ne savons pas. Alors, il faut que tout le monde y réfléchisse en responsable, y compris Jean Bouille.
Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être une pression, à votre avis, pour que les députés puissent assister, le quorum au moins soit atteint pour qu'une plénière puisse se tenir?
Mais d'abord, je m'adresserai aux députés de l'opposition. Avant d'être des députés, ils sont des leaders politiques. Qu'est-ce qui les empêche de mobiliser leurs citoyens, leurs membres, pour aller manifester au Palais du Peuple? Pourquoi ils ne le font pas? Donc, en d'autres termes, je rejoins ce que l'autre ami ici avait dit, de Katanga, je n'ai pas retenu le nom, Eric avait dit, il faut que les citoyens se mobilisent, puisque les politiciens, finalement, ils font des discours et pas plus loin que ça, il faut que quelque part, la société civile décide d'aller investir le Palais du Peuple et exiger aux députés qu'ils démissionnent tout de suite. Soit alors qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, mais ils ne vont pas continuer à se jouer des gens comme ça.
Peut-être qu'encore ce n'est qu'un début, que les clients pourront se tenir après, mais une pression, quand même, ce serait quelque chose.
De toute façon, il faut une pression.
Nous allons écouter, déjà nous avons le député national Thomas Louaka, il est de l'opposition, nous allons le prendre, nous allons l'écouter, et aussi Arsène et Pascal, vous serez en ligne dans quelques minutes.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Louaka.
Bonjour, madame.
Comme je l'ai dit, vous êtes député national, vous faites partie de l'opposition. Déjà, les auditeurs, un peu, on sent qu'il y a un malaise, hein. Ils se sentent pas très bien, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ce report successif. Nous avons eu un premier député national au niveau de la majorité qui a décrié aussi cette situation et qui a proposé quelques pistes de solutions. Quel est votre avis, à vous, en tant qu'opposition, au regard de ce report consécutif 4 fois?
Ok, merci beaucoup, mais je pense que il est important de sensibiliser encore les députés pour qu'ils viennent à participer aux plénières. Mais j'aimerais corriger quelque chose qui a été dit par l'analyste qui est sur le plateau. Nous, mon parti politique, les MLC, vous pouvez mettre les mécanismes de vérification en place. Nous sommes toujours présents dans la salle et essentiellement, en général, ce sont les députés de la majorité qui ne viennent pas pour des raisons qui leur sont propres. Une petite parenthèse, pour justifier cet absentéisme, on nous dit que beaucoup ne sont pas d'accord de la mutation de la coalition AMP vers une structure qui tend à devenir un parti politique. Ils pensent qu'ils n'ont pas été impliqués dans la démarche et c'est une façon à eux de manifester leur mécontentement face à cette évolution. Mais ça, ce sont des problèmes internes à cette coalition. Nous ne voulons pas que les problèmes internes à cette coalition puissent bloquer la machine. la machine de l'Assemblée nationale. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Mbouli, il faut mettre en place des mécanismes, des contraintes. Il a parlé des indemnités, des émoluments, tout à fait d'accord, on peut trouver des mécanismes où on indexe les paiements des émoluments à la présence physique dans le plénière. Deuxième mécanisme, des contraintes, on peut aussi, après chaque plénière, publier dans la presse ou à la chaîne du 50, la chaîne nationale des institutions, la liste des députés qui étaient présents dans la salle. Comme ça, la population, les électeurs pourront bien se rendre compte qui fait son travail et qui ne fait pas son travail. Et dernière chose peut-être, il faudrait que la population puisse tirer une leçon de cette situation, parce que comme vous le savez, en 2006, les élections se sont faites sur la base base d'une certaine complaisance. On a pris des gens parce qu'ils ont fait boire, on a pris des gens parce qu'ils ont fait des promesses démagogiques en disant qu'ils vont construire des routes, des hôpitaux, etc. La population a cru cela. Ce n'est pas le travail d'un député de construire des hôpitaux ni de construire des routes, il n'en a pas d'ailleurs le moyen. Donc je pense que cette fois-ci, la population sera plus vigilante et pourra vraiment faire un choix judicieux de ses représentants. Parce que si on répète les mêmes erreurs qu'en 2006, avec cette complaisance, les mêmes mots produisant les mêmes effets, on va retomber dans la même situation.
Il est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a toujours pas eu de porte-parole de l'opposition, c'est un peu assez difficile de ce côté-là, mais dites-nous un peu, c'est vrai que vous, le MNC, vous dites que vous êtes souvent dans la salle, mais à part, c'est vrai que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous seul siéger, vous avez vraiment besoin des députés nationaux de la majorité. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau des fois, des pressions que vous pouvez organiser pour pouvoir que les plénières au moins se tiennent? Parce qu'apparemment, il y a de la matière dans les commissions qui ne demandent que d'être adoptées, votées au niveau des plénières.
Madame, deux choses. Vendredi, j'ai participé à la plénière de ma commission Défense et Sécurité. Je pense que sur 90 députés inscrits dans cette commission défense et sécurité, les plénières se sont tenues au collège Boboto, vous pouvez vérifier, nous étions à peu près une trentaine de députés. Donc nous essayons, en tout cas, tous les députés MLC, membres de cette commission, je les ai appelés, ils étaient présents. Donc nous essayons de notre côté de faire correctement notre travail. Vous avez évoqué la question en passant du porte-parole. Le porte-parole sera désigné lorsque le bureau des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, convoquera les deux bureaux convoqueront la plénière de l'opposition pour désigner. Jusqu'à aujourd'hui, ces deux bureaux n'ont jamais convoqué cette plénière. Donc, je referme cette parenthèse. En tout cas, à notre niveau, nous sommes en train de sensibiliser les collègues et de la majorité et de l'opposition. J'essaie de leur dire, j'ai peut-être une petite expérience. Comme vous le savez, j'étais moi-même député de la transition. Sur 500 députés de la transition, nous sommes revenus en 2006 à 42, moins de 9%. Donc, j'ai dit aux amis, ne jouez pas. La population est en train de vous regarder, la population sait qui fait quoi dans cette salle. Si vous ne faites pas correctement votre travail, vous serez sanctionné et vous ne reviendrez plus. Donc voilà la seule, on essaie de faire au fil des collègues, parce que nous n'avons pas de mécanisme de contrainte comme individu à amener les gens dans la salle. Mais j'ai proposé l'indexation des émoluments sur la présence physique et la publication des listes de présence après chaque plénière.
Et une aussi dernière question, parce qu'elle vous concerne aussi. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est une question d'indemnité de sortie.
Non, madame, je ne pense pas. Bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est nous, nos députés, nous sommes dans la salle, nous ne sommes pas concernés par cette situation. En tout cas, je n'ai jamais entendu qu'il y ait une réunion, peut-être au niveau de la majorité. Ils ont tenu cette réunion en effaçant cette option-là. Mais si c'est le cas, c'est dommage. On ne peut pas prendre une institution en otage pour réclamer des droits syndicaux. Je crois que les indemnités de sortie, ce sont des droits. Il y a d'autres procédures pour faire valoir ces droits-là et non pas en séchant les plénières. Lorsque vous séchez les plénières, vous bloquez, d'autant plus qu'ils sont les plus nombreux. Ils sont plus de 350 députés de la majorité. Donc, lorsqu'ils ne viennent pas dans la salle, l'institution est bloquée. Mais j'aimerais aussi peut-être interpeller à cette occasion le président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps le secrétaire général du PPRD, le PPRD a 110 députés, 11 députés dans cette salle. Donc, il suffit que les députés du PPRD soient tous là, avec les députés de l'opposition, je pense que le travail pourra se faire. Donc, il appartient aussi au président de l'Assemblée nationale de reprendre ses troupes en main.
Merci beaucoup, monsieur Loaka. Je rappelle que vous êtes député national, faites partie de l'opposition. Nous avons Pascal de Mbujimré. Avant que Pascal ne puisse intervenir, ce message de Bogé nous a écrit à partir de Bounia, les élus doivent penser à l'adage du roi Salomon, heureux la fin d'une chose que son commencement, le peuple a compris comment choisir un élu. Pascal, vous avez la parole.
Oui, madame, merci pour la parole. Je voulais quand même intervenir par rapport à ce que l'honorable vient de dire.
Mm-hmm.
Moi, je suis en train de voir les problèmes se résider d'abord dans le gouvernement. Quand vous voyez, il y a d'abord le vide dans le ministère. Et dans ce vide qui se trouve dans le ministère, doivent être remplacés. Et pour les remplacer, il faut que ceux-là qui seront nommés passent par le Parlement. Et alors, dans les camps de la majorité, il y a des bousculages. Les gens qui se cherchent et les gens qui se recherchent pour que je sois nommé tel ou tel et qui veulent prendre nous, la population, en otage. Vous allez voir que tout ce que le député Jean Bouillou et même Thomas Louaka vient de dire, ce sont des choses qui nous devons nous plaindre. Mais quand ça arrive, c'est eux-mêmes qui sont partie prenante dans le Parlement, ils trouvent quand même que non, quelque part là, il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce que nous pouvons dire, c'est quoi ? Que nous sommes fatigués. Ils nous ont pris en otage depuis 2010 jusqu'à présent. Vous allez voir qu'ils produisent des lois sans effet. Il y a des gens qui vendent, qui détournent l'argent de l'État, et quand ils arrivent au plénière, ce sont des acclamations, ce sont des cris, ce sont des bruits, et on défend les problèmes, passe comme ça, sans finir qui que ce soit. Vous allez voir que, madame, en 2011, c'est bientôt là, nous devons prendre les choses en main. Parce que vos émissions nous aident, et partout où vous êtes suivis, et je pense que les gens comprennent que nous n'avons pas de représentants.
Merci beaucoup, Pascal. C'était votre point de vue. Je tente de donner la parole à Arsène de Kikwit qui a attendu pendant près de 30 minutes au téléphone. Arsène, bonjour.
Bonjour, madame la présidente.
Arsène, nous vous écoutons. Je suis une animatrice de radio.
Je suis un peu content que la population et tous les intervenants ont fini quand même par comprendre, voir les choses en face. Quand on a commencé cette émission, moi, je me disais, il y a deux parlements. Et le parlement institutionnel et non institutionnel, parce que de l'autre côté aussi, on revendique des histoires pareilles. Alors, moi, je dirais ceci. Monsieur Pochad, la première personne à qui je m'adresse, c'est celle-là. Monsieur Pochad, référez-vous à la fameuse fable de la fontaine des animaux malades de la peste. Je mets un point là, je crois que c'est un grand monsieur qui saura de quoi je parle. Alors, quant à moi, je suis dessus comme tout le monde, mais je cherche à ce que les parlementaires puissent comprendre qu'ils ont chaud, qu'ils ont des problèmes avec des Congolais. Parce que des fois, les gens ignorent la réaction populaire qui se trouve dans le cœur. Ils sont brutalement secoués quand il y a une manifestation spontanée sans organiser. Je vais aussi parler à M. Koyagialo. Une fois, nous sommes passés sur les antennes avec lui. J'ai prédit il y a 2 ans. M. Koyagialo, c'est le Djalelo. Vous désorientez le président de la République.
S'il vous plaît, Arsène, plutôt. Arsène, oui. Revenons à ces plénières qui sont reportées aux députés, parce que je ne vois pas pourquoi le président. Je veux qu'il y ait un lien, qu'il y a un lien entre l'AMP et aussi le Parlement, mais là, ce sont les députés qui ne se présentent pas aux plénières. Les raisons qui sont évoquées, c'est l'absence des députés. Revenons à nos députés.
Ok, madame. C'est l'éducation. Quand je commence par le chef, ça veut dire que c'est le chef qui entraîne ses troupes. Nous parlons de députés, mais ces députés-là ont des chefs. C'est pour ça que je m'adresse à leur chef. Les députés doivent savoir que quand ils se disent majorité, quand ils se disent minorité, c'est sur un mandat.
Mm-hmm.
Qui a donné ce mandat-là?
Mm-hmm.
Est-ce qu'il se retrouve? Ceux qui ont donné le mandat, ces gens qui se réclament de l'opposition, qui se réclament en majorité. Mais la majorité, elle est dehors. La majorité, c'est la population congolaise, nous sommes dessus. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que je dis? Je dis ceci, peuple congolais, ne dormez pas, ne dormez pas, soyez éveillés.
Merci beaucoup Arsène, c'est sur cette phrase. Nous vous remercions pour votre intervention parce que nous cheminons vers la fin de cette émission. Nous allons prendre Henri, vous n'avez que une minute en plus pour vous donner votre avis. Henri, bonjour.
Bonjour madame, bonjour madame.
Nous vous écoutons Henri.
Voilà madame, je crois qu'il faut avoir siégé dans cette assemblée-là pour comprendre ce qui se passe réellement.
Mm-hmm.
Ce que nous déplorons, c'est réellement la déliquescence de la République. Concrètement, la perversion de l'État, dont l'institution assemblée ignore totalement son propre règlement, ignore la loi. Aujourd'hui, la préoccupation de la plupart des députés que moi j'ai contactés, est qu'ils sont contre le choix de contre le changement de la loi électorale. En ceci que cette loi permettre à ce que, par exemple, un député d'un parti tel puisse, par ce voix, opter deux ou trois autres.
Mais s'il vous plaît, Henri, la loi électorale n'a pas encore été revisée, peut-être que
non, c'est
encore
en coulisses. Elle est matière de cette question-là.
Oui, mais c'est encore en coulisses, ils n'ont pas encore discuté en plénière.
Oui, justement, mais vous devriez poser là-bas pour comprendre comment est-ce qu'on fait des stratégies pour bloquer certaines choses. Hein? Alors, ce que moi j'ai dit, c'est que. En principe, les honorables reviennent de leurs vacances. Ils devaient normalement s'atteler aux problèmes cruciaux de la nation. Mais comme vous le constatez, ils sont plus occupés par les prochaines élections que par le devenir de la nation.
En tout cas, Henri, nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous. C'est une question de calcul politique. C'est pourquoi les députés ne siègent pas. Nous allons lire le dernier message de David Koussou de Lubumbashi. Il nous écrit ceci. Les députés ont démontré leur intérêt égoïste. Et il termine en disant dommage. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous revenons à notre invité, Monsieur Goncho. Vous avez suivi la dernière série d'auditeurs. Comment vous réagissez, mais aussi en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Je crois que le constat est là, il est accablant. L'émission étant ouverte à toutes les parties. Nous n'avons pas trouvé même deux personnes pour défendre le camp qui gouverne aujourd'hui. Donc ça veut dire que au-delà de constats tristes, nous devons anticiper les choses. C'est-à-dire, intelligemment, nous devons comprendre que nous allons tout droit vers une crise. Les députés avouent par leur attitude et leurs propos, leur échec, nous les comprenons, certains l'avaient prévu, et ils viennent de le reconnaître aujourd'hui. Le plus important maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre des mêmes députés qu'ils modifient des lois, qu'ils fassent une loi électorale juste ou quoi que ce soit. Nous pensons que quand le Parlement est en faillite, comme c'est le cas, il faut qu'il y ait
des portes. En faillite, ils ont encore deux mois et demi, comme nous pensons que c'est un mois un peu actif.
Non, gouverner, c'est prévoir, nous anticipons. Dans deux mois, nous allons seulement confirmer la faillite. Mais mieux vaut prévoir, mieux vaut prévenir que guérir, disons-nous.
Mm-hmm.
Il faut que les gens responsables de ces pays s'investissent dans des mécanismes pour gérer la crise qui s'annonce. Et même les partis politiques qui sont partie prenante à ça, malgré leur échec, qu'ils fassent au moins un dernier acte pour se racheter en se montrant ouverts à des mécanismes plus responsables.
En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, une émission qui était consacrée à l'Assemblée nationale avec ce report successif des plénières depuis le début de cette session de mars. Nous vous disons merci, M. Serge Goncho, d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi président d'une association, le G1000, une association citoyenne, pour pousser les personnes, la population, à pouvoir s'intéresser à la politique d'une manière responsable et ne pas attendre que la politique puisse s'occuper d'eux. Et nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis, que ce soit en externe ou connecté sur www.radiocapi.net. Merci également à Pierre Lamège, à Tikin Poutou et à Pinto Kouale qui ont réalisé cette émission, sans oublier J.C. Siala qui était à la mise en œuvre.
Allô? Allô? Il ne répond pas?
Le thème de demain de Parole aux auditeurs, un nouveau rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour la situation des droits de l'homme vient de rendu public. Dans ce rapport, il ressort que la situation des droits de l'homme en RDC ne s'est pas améliorée et demeure extrêmement préoccupante, surtout dans l'est du pays. Comment réagissez-vous face à ce rapport et selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays? Vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes à venir.